Bonjour, chers écouteurs.
Pionze et le nazisme.
Voici la traduction du message de sa sainteté, le pape Pie XI, tel qu'il a été enregistré sur l'autre côté de ce disque. Pouvant le premier me servir de l'admirable invention de Marconi, nous nous adressons tout d'abord aux hommes et aux choses en leur disant « Écoutez, nation, écoutez, continent, écoutez, peuple lointain, tendez l'oreille, vous tous qui peuplez le globe, étant unis, le pauvre et le riche, dans une même pensée. »
Pionze entendait exercer sa mission mondiale par tous les moyens dont il disposait, y compris les nouveaux, Radio Vatican, le disque, première intervention du pape en 1931. La plus grande pente que suit d'ordinaire le Vatican, c'est l'accommodement avec les États afin de maintenir les possibilités d'action de l'Église. Pionze signa ainsi 11 concordats, dont l'un avec l'Italie fasciste et un autre encore avec le Troisième Reich, débutant en 1933. En revanche, la reconnaissance mutuelle, à moment espérée, avec l'URSS s'avéra impossible. Longtemps d'ailleurs, le communisme fut considéré par Pie XI comme le principal danger, l'avatar ultime de la révolution française dévastatrice. Mais progressivement, il vit dans le régime fasciste qui se brutalisait en Italie et dans le nazisme surtout, un culte du surhomme et de la race qui contredisait radicalement le message d'humanité du christianisme. Face aux persécutions des Juifs, il en vint même à redécouvrir l'antique rapport de l'Église et de la synagogue. Les dernières années du pape furent consacrées à ce combat. Juste avant sa mort, en février 1939, on attendait encore de lui de nouvelles interventions encore plus fermes. Et à dire vrai, personne en revanche n'espérait la même chose de son successeur Pie XII.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Fabrice Boutillon, bonjour.
Bonjour.
Qui organise dans sa bonne université, l'Université de Bretagne Occidentale, à Brest, un grand colloque dans un grand concours de peuple. C'est ouvert au public, c'est ce week-end.
Oui, de jeudi à samedi, en fait.
Et ce colloque est consacré à une des grandes interventions contre le nazisme de Pie XI, une encyclique dont moi je vais, si vous le voulez bien, donner le titre français, avec une profonde inquiétude. Ce sont les premiers mots du pape. Et le titre allemand ?
Mit brennender Sorge. Oui. Avec un souci brûlant, c'est les premiers mots du texte. Et c'est par là que Pie XI décrit ce qu'il ressent en regardant la situation du catholicisme en Allemagne en 1937.
Colloque auquel peuvent se rendre nos auditeurs de Brest et qui est béni et même soutenu à la fois par le Comité pontifical des sciences historiques et la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Un mot du pape Pie XI, 22-39, le pape Ratti, c'est son nom de famille, dont vous expliquez dans un livre vif que vous avez publié il y a quelques années aux presses universitaires de Strasbourg que pour devenir pape, il faut pas être enfant de cœur.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne devient pas pape si on n'a pas toute une expérience de l'Église. Et plus on a de l'expérience, et moins on est enfant de cœur, naturellement. Et effectivement, Pie XI, Ratti, on avait une un peu particulière par rapport à celle des milieux romains, parce qu'il est, grosso modo, milanais à l'origine. Et il est très enraciné dans ce nord de l'Italie. Il en profite pour être un pape alpiniste, enfin alpiniste avant d'être pape, parce qu'après, il ne pourra plus l'être. Et il a une formation qui est érudit. Il a été bibliothécaire à Milan, bibliothécaire à la Vatican, et ensuite il va avoir une expérience diplomatique. Il est pendant la Première Guerre mondiale et dans les années qui suivent chargé d'une mission diplomatique en Pologne. Il est nonce apostolique à Varsovie.
Et l'armée rouge, c'est l'époque où De Gaulle est capitaine en Pologne, et l'armée rouge, après la fin de la Première Guerre mondiale, qui se prolonge là-bas dans des conditions qu'on connaît peu, il est face à l'armée rouge à Varsovie. Pendant que la guerre fait rage entre la Pologne et l'armée rouge, c'est aussi, dans les temps qui suivent, la guerre civile en Russie, où le clergé orthodoxe est sommé de choisir son camp. C'est une pièce de Bulgakov.
Qu'ils aillent se faire voir tous ces moines! Quel repère de brigands! Dis donc quoi ça fait! Où se trouve le chemin qui mène au clocher, hein?
Ici, ici!
Alors, vous avez fait des feux sur le clocher!
Mon Dieu, qu'est-ce que vous dites? Des feux?
On a vu des feux briller! Bon! Alors je vous avertis! Si je découvre quelque chose sur le clocher, je vous colle tous contre le mur! Jusqu'au dernier! Vous avez allumé des feux pour les Blancs!
Mon Dieu, qu'est-ce que vous dites?
Et ceux-là, qu'est-ce que c'est?
Ce sont des réfugiés! Des réfugiés!
Camarades!
Saint Dimitri, martyr glorieux!
Les moines, si je comprends bien, ne se mêlent pas de la guerre civile.
Non.
Vous ne faites que prier. Mais pour qui vous priez, hein? Pour le baron noir ou pour le pouvoir des soviets?
Les îles Solovki d'abord, la Sibérie plus tard, se rempliront de milliers et de milliers d'évêques et de prêtres orthodoxes. Si Rome était cynique, ce qu'à Dieu ne plaise, elle pourrait se dire, tiens, les orthodoxes ont toujours barré notre tentative d'implantation en Russie, on pourrait en profiter. Ah, il y a toujours une tendance réaliste, pragmatique à Rome. Et certains se disent, on pourrait peut-être quand même s'entendre avec les soviétiques.
Oui, c'est vrai. Il y a eu cette idée qu'une succession était ouverte en Russie et que peut-être c'était pour l'Église catholique le moment d'essayer de s'y étendre. Mais en fait, la désillusion est venue assez vite. Vous voyez, on peut penser que, grosso modo, vers le milieu des années 20, à peu près, Rome ne compte plus du tout sur la bienveillance éventuelle du gouvernement soviétique pour une pénétration catholique. C'est là un rêve qui est abandonné à Rome et on commence désormais à analyser ce pouvoir soviétique comme une sorte de conséquence de l'antichristianisme viscéral de la gauche, de la Révolution française.
Ah, ça vient de la Révolution française. Alors face à la Révolution française, il y a deux possibilités. Ou bien on est dans l'affrontement, Pie XI va béatifier les martyrs d'Orange, les prêtres massacrés de Paris de septembre 92. Ou bien aussi, vous appelez ça le consalvisme, oui, du nom du cardinal qui a négocié avec Napoléon en 1801. On essaye, quand la révolution atterrit, de se concerter avec elle et d'installer l'Église dans ses libertés.
Oui, effectivement, c'est l'autre voie qui a été ouverte dès la fin de la Révolution française, avec le concordat avec la République. On dit toujours le concordat avec Napoléon Bonaparte, mais il est premier consul de la République. Et l'idée, c'est qu'on peut accepter un pouvoir issu de la Révolution s'il n'est pas persécuteur, et s'il laisse à l'Église la possibilité de se consacrer à l'évangélisation. Et effectivement, il y a une tradition qu'on peut appeler le consalvisme, qui court tout au long du XIXe siècle, avec le ralliement des catholiques à la République sous Léon XIII dans les années 1890, par exemple, et Pie XI, dans les années 20, s'inscrit assez largement dans cette tradition, et c'est pourquoi il a signé de nombreux concordats, comme l'avait fait Consalvi en 1801.
Dont, en 1929, le concordat avec l'État, fascisme, consalvisme et fascisme. Ça, ce sont les mots savants que les historiens utilisent. Je vous propose d'écouter l'interprétation plus romanesque de Frédéric Mitterrand sur ces accords dits du Latran en 1929.
Depuis le labyrinthe du Vatican, où certains corridors menaient aux cachettes des antifascistes, et d'autres au salon où d'aimables monsignories s'entretenaient benoîtement avec des chemises noires, Pie XI s'apprêtait à accorder à Mussolini ce qu'il avait toujours refusé à la maison de Savoie, un traité d'alliance en bonne et due forme. Mussolini ne croyait guère que le pape fût le représentant du bon Dieu, et le souverain pontife était persuadé que le dictateur fût le diable. Mais à défaut de se vouer réciproquement leurs âmes, de solides intérêts communs les incitèrent à se les confier en location mutuelle pour un bail qui isolerait un peu plus le propriétaire nominal des lieux, Victor Emmanuel. Ainsi, entre mains jointes et saluts fascistes, l'Italie comme son roi devenait un peu plus infirme de liberté.
Vous vous me demandez, Fabrice Boutillon, avant l'émission, mais où trouvez-vous vos archives? France 2, bien évidemment, Fabrice Boutillon.
Très bien, vive France 2.
Le Vatican trouve quand même un avantage, parce que le Vatican vit en apnée depuis l'occupation de Rome par le royaume d'Italie unifié. Le pape se sent prisonnier, et là, il va pouvoir respirer à l'air libre. Simplement, c'est l'air libre du salut fasciste, oui, comme dit Frédéric Mitterrand.
Mais on pourrait dire que d'un certain point de vue, le Mussolini de 1929 n'est pas beaucoup plus dictatorial que le Bonaparte de 1801, voyez-vous. Ça n'est pas si différent que ça. Ça permet en tout cas de régler une situation qui pour l'Église ne l'était pas depuis beaucoup d'années. Et effectivement, le Saint-Siège va signer ses accords du Latran avec Mussolini. Simplement, ce que ne dit pas Frédéric Mitterrand, c'est qu'à peine ces accords sont-ils signés, qu'on va voir se créer une tension extrêmement vive entre Pie XI et Mussolini, une tension qui tient au fait que Pie XI découvre que le fascisme est en fait porteur d'un totalitarisme qui ne peut pas accepter de laisser à l'Église ce qu'elle revendique absolument et qui est sa liberté. Et à partir de là, à peine le traité est-il signé, dès l'année 1929 et jusqu'en 1931, vous allez avoir des heurts extrêmement vifs, pas seulement idéologiques, mais physiques. Vous aurez des catholiques qui seront tabassés dans les rues par des militants fascistes et ça va aboutir en 1931 à une encyclique de Pie XI en italien qui s'appelle « Non abbiamo bisogno » et qui est extrêmement dure contre le fascisme. Elle dit qu'il y a là une idolâtrie, une statolâtrie païenne qui est inadmissible pour des catholiques.
Quand le titre d'une encyclique, je renseigne les auditeurs, est donné dans une langue nationale, c'est qu'elle s'adresse en particulier aux fidèles d'une nation. Je vais vous poser une question à la Frédéric Mitterrand. Pourquoi le pape Pie XI s'oppose-t-il sans cesse à ce qu'on voit des beaux corps nu, la statuaire fasciste, en face des églises qui sont dans Rome avec parfois un statut d'extraterritorialité?
Eh bien, je pense que votre question va très loin dans l'intelligence du fascisme, si je peux vous le dire. C'est-à-dire que la contemplation de ces corps nus d'athlètes superbes, d'un certain point de vue, elle peut aussi mener à une religion de l'immanence, à l'idée que le monde tel qu'il est se suffit à lui-même, dans sa beauté, dans sa perfection. Et à certains égards, il y a ça profondément au cœur du totalitarisme fasciste, comme il y aura ça au cœur du nazisme. Et l'une des raisons profondes pour lesquelles le Saint-Siège ne peut pas accepter ça, c'est que le christianisme, lui, est une religion de la transcendance.
Alors, toujours en latin, voici maintenant les Carmina Burana. On va changer de plan, on va aller en Allemagne, où bientôt Karl Hoff, 1935, va composer, sous un titre latin, des cantates qui sont en fait profanes, pour ne pas dire païennes, qui dans son esprit célébraient le printemps et qui, dans celui du pouvoir nazi, vont célébrer la race des corps nus ariens.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Fabrice Boutillon qui a eu l'excellente idée d'organiser un colloque qui se tiendra en public, on peut y assister si on le souhaite, entre jeudi et samedi à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest et qui sera consacré à Pie XI et le nazisme. Dites-moi, il a quand même mis du temps là aussi à comprendre ce qu'était Hitler, Ratti. Vous me direz qu'il était conseiller au secrétariat d'État, poste essentiel, encore plus essentiel à l'époque qu'aujourd'hui, depuis 1930 par le cardinal Pacelli, qui avait été nonce en Bavière au moment de la révolution spartakiste, à la fin de la Première Guerre mondiale, et qui avait fait rempart de son corps, il a raconté ça mille fois à peu près, face à la révolution.
Oui, c'est vrai que Pie XI n'a pas été très rapide à comprendre ce qu'était le nazisme, mais il faut dire que l'exercice l'exercice était difficile parce que comprendre le nazisme vers 1923, c'est plus compliqué que de le comprendre en 2015. Car à l'intérieur du nazisme, on pouvait hésiter entre deux interprétations. Est-ce que le nazisme était surtout un conservatisme, vous voyez, caractérisé par son anti-bolchevisme, voyez, une sorte de droite dure, simplement, un conservatisme? Ou est-ce que le nazisme était un totalitarisme, une réalité politique beaucoup plus récente, beaucoup plus jeune, beaucoup plus inquiétante pour l'Église?
Oui, mais en 32-33, quand oui. Pacelli, secrétaire d'État, futur P12, va aider Pie XI à signer un concordat, juillet 33, avec le Reich. Ben, on sait très bien, d'un point de vue traditionnel catholique, que le national-socialisme c'est mal, parce que c'est nationaliste à l'extrême, et que l'Église est universelle, et parce que c'est socialiste.
Oui, on le sait, la meilleure preuve en étant que les évêques catholiques allemands avaient formellement interdit aux catholiques allemands de voter pour le parti nazi ou d'être membre du parti nazi.
Alors, on signe un concordat pour circonscrire l'incendie.
Oui, c'est l'une des grandes raisons. Il se trouve qu'à partir de 1933, les nazis sont en pouvoir, visiblement pour longtemps, et que l'une des raisons pour lesquelles le Vatican va signer le concordat, c'est que le concordat permet de remplacer le bouclier que constituait pour l'Église catholique jusque-là, dans le régime de la République de Weimar, le grand parti catholique du centre. Jusqu'alors, les intérêts du catholicisme dans la politique allemande étaient défendus par ce parti qui était le parti du centre. Les partis politiques perdent toute importance en Allemagne, sauf le parti nazi, à partir de 1933. D'où l'idée de remplacer la protection que ce parti offrait à l'Église par le concordat.
C'est une étincelle va venir dans la tête de Pie XI avec en même temps ce mot déjà de totalitarisme.
Oui, il faut savoir que ce mot de totalitarisme, on va beaucoup en parler dans ce colloque à Brest, est assez largement d'invention chrétienne. C'est entre autres des militants démocrates chrétiens confrontés à Mussolini qui ont inventé ce terme-là dès la prise de pouvoir de Mussolini autour de 1922, vous voyez. Donc, c'est quelque chose que Pie XI connaissait et en fait, très vite après l'arrivée du nazisme au pouvoir, il va devoir s'apercevoir que le nazisme n'est pas exclusivement un conservatisme, pas surtout un conservatisme, qu'il est un totalitarisme et qu'il porte en lui une religiosité d'un nouveau genre, une religiosité politique, une religion de la race et du sang, et que celle-là n'est pas déterminée à des compromis avec le christianisme.
Donc une religion avec des surhommes, on revient au statut d'homme nu. Et chez les totalitaires, on vous dit que l'humanité est sauvée parce que les hommes ne sont pas frères.
Oui.
J'insiste sur cette fois mieux. L'humanité est sauvée parce que les hommes ne sont pas frères. Et quand même, pour le pape, l'humanité forme une seule famille.
Oui, absolument. Et c'est ce qui vous explique que quand, en 1938, Mussolini va adopter des lois raciales en Italie, inspirées du nazisme allemand, l'un des rares Italiens qui élèvera la voix contre cette législation raciale, ce sera Pie XI, et au nom, précisément, de cette unité de l'humanité.
Allez, encore un titre d'encyclique. Celle-ci n'est pas, semble-t-il, destinée à lutter contre le surhomme, mais elle justifie la lutte contre l'eugénisme, contre l'élimination des handicapés. Castille, Quenubi.
Oui.
D'habitude, on présente cette encyclique comme étant une encyclique pleine de pruderie.
Oui,
faites attention quand vous avez des relations sexuelles, faites qu'elles soient orientées vers la procréation, mais...
Et oui, c'est effectivement une encyclique qui parle du mariage chrétien, voyez-vous, et on est très loin avant le mariage pour tous. Hein, c'est tout à fait clair dans cette encyclique. Elle est liée à une autre encyclique une année auparavant, je crois, qui, elle, parle de l'éducation chrétienne, et avec cette idée, il n'est de bonne éducation que chez les jésuites. En gros, c'est ça. Et c'est aussi dans ces deux encycliques qui sont écrites très largement dans la perspective de la lutte contre Mussolini dans les années 29-31 que Pie XI déjà pose des interdits qui justement vont rejaillir au moment de la confrontation avec le nazisme. En particulier, vous savez peut-être que pendant la guerre, il y a eu un évêque allemand, Mgr von Galen, pour s'opposer en chair, en 41, à l'eugénisme nazi, à l'euthanasie voulue par les nazis. Et l'une des raisons pour lesquelles von Galen va le faire, c'est que au début des années 30, Pie XI avait pris position contre ça, justement, dans Castille Quenubi.
Alors, peu à peu, les événements s'accélèrent, d'autant que du côté du pape, la maladie menace artériosclérose pour l'alpiniste qui est atteint aussi de diabète et qui a à entendre le cardinal archevêque de Paris, le cardinal Verdier, qui lui rend visite à la fin de 1936, est devenu un auguste vieillard, mais vaillant.
C'était un soir de décembre. Les familiers du pape s'étaient retirés. J'étais seul auprès de lui. L'audience était finie. Je m'inclinais pour recevoir sa paternelle bénédiction. Le pape, me relevant, me dit gravement ces paroles. Nous remercions Dieu tous les jours de nous faire vivre dans les conjonctures actuelles. La crise qui s'est abattue sur le monde est la plus universelle et la plus profonde que l'histoire ait connue. Quelles que soient les péripéties, ajouta-t-il, je suis sûr que l'Église sortira de ce creuset plus pure et mieux adaptée aux conditions nouvelles, et ce sera pour le bien de tous. Il faut être fier, conclut-il, d'être les témoins et un peu les acteurs de ce drame si grandiose, car nul aujourd'hui n'a le droit d'être médiocre.
Et peu de mois après, mars 1937, double coup de tonnerre. Une encyclique, titre latin, destinée à lutter contre le communisme, Divini Redemptoris, rien de très nouveau sous le soleil. Elle est publiée la première. Le régime allemand dit, il est lucide, hein, ce pape, bravo, et coup fourré du pape, l'intention elle était là, une encyclique en allemand contre le nazisme dont je vous laisse redonner le titre.
Mit brennender Sorge.
Et qui dit ?
Avec un souci brûlant, donc. Et c'est une encyclique qui va avoir un grand retentissement. D'abord parce qu'elle est introduite secrètement en Allemagne, essentiellement par la valise diplomatique de l'annonciature de Berlin. Elle va être donnée au clergé et elle va être lue du haut des chaires de toutes les églises catholiques allemandes le jour de l'année où il y a le plus de fidèles dans les églises pour le dimanche de des Rameaux. Et dans cette encyclique, Pie XI commence par dire que le Concordat avec l'Allemagne a été une duperie qui, dans la tête des dirigeants du régime, cachait dès le début la volonté d'une guerre d'extermination contre le christianisme. Ensuite, il va procéder à un rappel de toutes les vérités fondamentales de la foi chrétienne, avec cette idée que si on adhère à ces vérités de la foi chrétienne, on ne peut pas adhérer aux articles principaux de la foi nazie. Exemple, nous croyons en un Dieu unique et personnel, et pas dans la vague providence qu'invoque Adolf Hitler. L'homme qui nous sauve, c'est Jésus. Ça veut dire, ce n'est pas Adolf Hitler. Nous adhérons au Christ, et adhérer au Christ, c'est adhérer aussi à l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'on ne peut pas jeter à la poubelle le rapport du christianisme au judaïsme, etc.
Alors, dans votre colloque, jeudi, samedi, une grande partie des travaux sera consacrée au contenu, mais aussi à la réception de l'encyclique. Les choses s'accélèrent en 1938, c'est une course de vitesse entre la maladie de Pie XI et les événements. Il va quitter Rome pour Castel Gandolfo quand Hitler viendra visiter Mussolini. Il refusera d'entendre les ambassadeurs des démocraties accrédités au Vatican au moment de Munich. Il lancera un projet d'encyclique nouvelle. On attendait de lui un discours fort au début de 1939, mais...
À peine la nouvelle a-t-elle franchi les portes de la cité vaticane que de tous côtés la foule romaine se dirige vers la place Saint-Pierre. Le monde tout entier a pris le deuil, et ce deuil n'est pas seulement celui de la catholicité. Tel est le sens de l'hommage que viennent rendre ici à la mémoire de Pie XI des personnalités religieuses de différents cultes. Pour les catholiques, son éminence le cardinal Bouillard. Pour les protestants, le pasteur Freddy Durlemann, président de la cause.
Il a, dans un langage sans équivoque, dénoncé les nuées oppressives qui obscurcissaient tant d'esprits.
Pour les israélites, monsieur Julien Veil, grand rabbin de Paris.
Un apôtre de la justice et de la paix, qui a dénoncé les pernicieuses erreurs du paganisme raciste et de l'antisémitisme absolument incompatible avec la foi chrétienne.
À Rome et sur toute la terre, des prières s'élèvent avec ferveur pour le pape défunt.
Qui a retrouvé le rapport oublié de l'Église et de la synagogue.
Oui, en fait, on peut dire que Med Brennender-Sorg, c'est un commencement pour Pionz et que dans les mois qui lui restaient à vivre jusqu'en février 39, il est devenu de plus en plus sensible au danger nazi. Il a fini par considérer que c'était plus grave pour l'Église que le communisme et c'est allé de pair avec la redécouverte d'une solidarité entre christianisme et judaïsme. Au moment en particulier de Munich, voyez-vous, il reçoit des journalistes et il va dire à ces journalistes que l'antisémitisme est incompatible avec le christianisme parce que les chrétiens sont spirituellement des sémites.
De son successeur, à vous lire, vous avez des paroles très cruelles, on a cru comprendre que vous étiez pourtant un catholique affiché. Il n'y avait pas à attendre grand-chose. Il avait un désir si limpide et si vrai d'être pape que l'Église ne pouvait avec lui que revenir à sa ligne de plus grande pente. Je continue ou vous souvenez?
Oui, je me souviens.
Alors allez-y.
Non,
on va faire un jeu de citations. Il s'entendait d'abord au calcul. Et après, qu'est-ce que vous dites? Au calcul des voix cardinalistes.
Des voix cardinalistes.
Et donc, c'est ce qui a fait qu'il fut pape et le pape qu'il fut.
C'est vrai. C'est-à-dire qu'avec Pie XII, vous avez un personnage qui est beaucoup plus classiquement un homme de carrière et de la carrière au sens plein du terme. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'autre expérience que de diplomate, voyez-vous. Et je crois qu'effectivement, avec l'élection de Pie XII, il y a un virage qui est pris par la curie et que du même coup, le souci qu'avait Pionz et la capacité qu'il avait à protester fermement quand il estimait que c'était nécessaire, eh bien ce souci devient beaucoup moins prégnant. Et c'est ce qui va mener pendant la guerre, au moment du génocide en particulier, au silence de Pie XII. Et on peut être catholique et reconnaître cela.
Et citer Yankelevitch qui parle du presque rien et du je ne sais quoi. Et vous, vous dites que le pape, il hésite entre le
je ne sais rien et le presque quoi, écrit COI, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait grand-chose, effectivement, pendant la guerre.
Merci Fabrice Boutillon. Le colloque avec Marie Levent, Philippe Chenot, bien d'autres chercheurs de Tel Aviv, d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, jeudi, samedi, à l'Université de Bretagne occidentale. Alors, à votre programme, Mathieu Vidard.
Eh bien, Jean, nous allons nous identifier, surtout nous protéger des pollutions du quotidien, dans un instant, dans La Tête au Carré.
Merci à vous.